Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis!
Salut Charline!
Est-ce que vous savez qui on reçoit?
Bah oui, on est hyper contents!
J'ai pas vu moi!
Bah si, c'est marqué au tableau, tu vas te marrer, hein. Il y a de la vanne à faire! Hein.
De la vanne à faire sur lui?
Ah bah lui, sur sa femme!
Sur sa femme?
Bah quand même, Pamela! C'est marrant! Bah.
Ah bon, je sais pas que tu connaissais les femmes de tous les gens importants!
Bah quand même, il est champion du monde!
Bien sûr, champion du monde! Ouais. C'est comme ça que vous appelez les gens quand j'ai reçu le concours, vous?
Quoi?
Bah, pour son roman, c'est un Guessabour pire de patience.
C'est pas qu'il écrivait.
Oh, bah, note, il a eu le temps, il était tout le temps sur le banc. Donc,
c'est vrai.
Ouais. Ouais, et là, il vient, donc il parle de Marseille, j'imagine.
Marseille, mais il est afghan.
Il est afghan, il est d'origine marocaine, mais il est français.
Il est français.
Ok, bah d'accord, bah, je vois qu'il y en a qui ont bien bossé.
Elle est marrante, celle-là. Elle lit l'équipe toutes les années bissextiles, et puis là, elle vient nous dire comment.
Mais il vient pour son nouveau roman, Les Porteurs d'eau.
Ah, il parle de son utilité en équipe de France.
Mais ça se passe au moment où les talibans, ils ont détruit les bouddhas de Bamiyan.
Attends, mais de qui tu parles?
Mais de Atik Raïm. Notre invité.
Comment elle prononce? Adil Rami, c'est le nom.
Ah mais je rêve, mais vous êtes vraiment nul, hein. Je sais pas pourquoi je vous ai sélectionné. Hein.
Ouais, comme Adil Rami là, ouais.
Qui n'est pas notre invité.
Ouais,
non.
Ouais, ouais, bah voilà, ça. Je te fais pas dire. Bonjour la France Inter.
Pardon la France Inter.
Oh. On est là.
L'émission sérieuse vous accueille.
Un moment de grâce.
Car vous écoutez la start-up du service public, cet endroit où l'on casse les dépêches AFP pour séparer le blanc de l'actualité du jaune de la blague. Et voici les trois informations qui ne finiront donc pas en omelette. On l'espère. 4 femmes sur 10 déclarent avoir été victimes d'une injustice, d'une humiliation ou d'une blague sexiste. Chaque année, le Haut Conseil à l'égalité homme-femme dresse un état des lieux sur le sexisme en France. Alors, faut-il tenir compte, quand même, quand la remarque sexiste est énoncée avec finesse ou subtilité?
Hey, j'aime bien votre façon de taper sur le clavier. C'est très érotique. On dirait que vous caressez les touches.
Je crois que la dernière fois, c'était ma façon d'agrafer qui vous émoustillait.
Pour agir efficacement dans le débat, des citoyens sont passés du rond-point à un atelier d'écriture afin de mieux formuler leurs revendications. Et qui sait, un jour, ils s'exprimeront peut-être aussi clairement que les politiques.
On a reçu le copieux derrière, mais c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
Ah oui,
on savait que les œuvres. On savait que les œuvres.
Pardon.
C'est déjà si drôle que ça.
On va s'arrêter là, alors. C'est Sarkozy. Hein.
Les œuvres de Jeff Koons polluent déjà visuellement les rues de Paris, ça on le sait, mais personne ne s'était interrogé sur la question du bilan carbone de l'art contemporain. Entre le transport, l'éclairage et les matières premières utilisées le temps d'une expo, le bilan carbone peut inquiéter. C'est dommage parce qu'on peut allier recyclage et œuvres d'art.
La Tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes. 345 exactement.
Quel est le bilan carbone de son spectacle? Ouf. Alex Vizorek est une œuvre d'art.
En tout cas, on va dans toute la France. Alors, retour de la table, une belle équipe, évidemment. À 17h20, le Beethoven de la programmation musicale, car on sent qu'il a aimé la musique, mais qu'il est devenu un peu sourd. C'est Chewbacca, bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
De Sarah McCoy.
Bah, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. Ça fait plaisir qu'on en reparle. 17h30. C'est en interrogeant n'importe qui qu'on finit par faire dire n'importe quoi. C'est la devise. De Guillaume Meurice.
C'est pas faux, bonjour à tous. Je vais vous parler pinard aujourd'hui, puisque le ministre de l'Agriculture a dit que c'était pas un alcool comme les autres, le vin. Alors je suis allé demander aux amateurs.
Je crois que du vin, je suis divin.
Alors attention, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour les jeux de mots.
Et enfin, 17h40, celle qui préfère encore lire l'œuvre complète de Paul Loup-Soulitzer plutôt que de dîner avec moi, c'est vous dire, c'est Clara Dupont-Mono, bonjour.
Bonsoir Alex, bonsoir à tous.
Comptez-vous?
Je vais bien, merci. Et je vais vous parler, voilà, puisque vous me posez la question, du livre de notre invité qui n'est pas joueur de foot.
Eh ben non, on a confondu.
Qui est moins riche?
Qui est cet homme?
Il sera la voix de la start-up jusqu'à 18h. Je vous laisse maintenant mettre les points sur les i. Vous êtes.
Atik Raïm.
Ah, yes.
Charline Vanunacker. Alex Vizorek. Par Jupiter.
Atik Raïmi, bienvenue. Nous avons préparé une émission entièrement consacrée à Adil Rami, on s'est gouré.
Adil Rami, oui, donc, mais j'ai entendu encore pire.
Donc,
Tariq Ramadan.
Oh non, non.
Et je vous jure, un jour quelqu'un m'a arrêté et dit, mais monsieur Tariq Ramadan, tout ce que vous dites, j'adore. Je le regarde. Il dit, bah merci. Il dit, je peux vous avouer quelque chose? Il dit, oui, quoi? Il dit, tout ce que je dis, je n'y crois pas du tout. me regarde et dit bon.
Patrick Raimi, donc prix Goncourt, bien sûr, pour Saint-Guy-Sabour, la pierre de patience. Et aujourd'hui, vous publiez Les porteurs d'eau, toujours chez POL. Le roman s'ouvre sur une phrase inscrite au milieu d'une page blanche. 11 mars 2001, deux points, les talibans détruisent les deux bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Tom est un Afghan exilé à Paris. Il s'appelait Tamim avant. Il est très bien intégré. Un matin, il quitte sa femme, Rina, pour aller rejoindre à Amsterdam sa maîtresse, Nouria. Il laisse aussi sa fille, Lola. Histoire parallèle, car les chapitres alternent entre les deux héros. Youssef, lui, vit à Kaboul. Il est porteur d'eau pour les fidèles de la mosquée. Mais sa plus grande mission, finalement, c'est de s'occuper de Shirin, la femme de son frère qui a disparu on ne sait où, et dont il est responsable, selon aussi la tradition. Qu'est-ce qui lie ces deux destins entre ces deux héros, entre Tom et entre Youssef, l'un en Europe, l'autre à Kaboul?
Deux choses. D'abord, l'amour. L'histoire de Youssef qui est à Kaboul, c'est la naissance du sentiment d'amour. Que lui, en tant que illettré, analphabète, il ne sait pas ce que lui arrive. Parce qu'il n'a pas les mots pour les poser sur ses sentiments. Et de l'autre côté, la déchéance de l'amour chez cet Afghan qui vit entre Paris et Amsterdam. Ça, voilà, premier lien. Deuxième lien, c'est le temps, c'est l'époque, c'est la destruction des Bouddhas. C'est le jour, les deux histoires arrivent le jour où les talibans détruisent les deux Bouddhas magnifiques au centre d'Afghanistan.
Vous racontez de façon tellement poétique. Ce que vous dites, c'est vrai, il y a la découverte de l'amour chez Youssef. Et nous, on le découvre parce que le matin, il a la trique. C'est dit crûment, mais vous le dites avec beaucoup de poésie.
Non, c'est vrai, il fallait le dire.
Mais oui, mais c'est vrai.
Ça arrive, ça arrive. Il faut vendre le bouquin. Hier, il avait une demi-molle dans le livre de Marion Messina. Aujourd'hui, on est sur un bouquin voilà, qui...
Voyons comment les choses... Comment les deux discours peuvent
vivement
être tenus.
Vivement demain.
Pardonnez-moi, c'est un cise qui n'était pas nécessaire à Tigre et Amy. Votre thème récurrent, c'est l'exil, bien sûr. Et il y a cette phrase dans le livre qui est comme un proverbe afghan. L'exil, c'est mourir ailleurs. Alors, quand Tom, qui est lui bien intégré à Paris, va fuir vers Amsterdam, est-ce que c'est parce qu'il choisit de mourir là-bas? Il est en exil et il fuit cet exil par un autre exil.
Bon, enfin, déjà, oui, c'est entre l'exil et la mort. Il y a toujours, comme justement vous avez cité, c'est l'exil, c'est mourir ailleurs. C'est ça, donc la mort et l'exil, c'est très proche. D'ailleurs, le travail de l'exil, c'est presque équivalent du travail du deuil. Donc, on quitte un pays, on laisse des gens derrière soi, une culture, une histoire, et on va ailleurs. Donc, de ce point de vue, oui.
Des étapes du deuil, comme le déni, la colère, l'acceptation aussi. Dans le deuil que vous avez connu, vous dites souvent, quand je suis à Paris, je suis comme un exilé afghan, et quand je rentre en Afghanistan, je suis
un exilé permanent, bien sûr.
Clara,
ce que Charline disait, un exilé qui fuit l'exil pour un autre exil, ça veut dire que c'est sans fin? Ça veut dire qu'on se pose jamais? Quand on s'est exilé une fois, on s'est exilé pour toujours, en fait?
L'exil est une maladie incurable. Dès qu'on quitte son pays, ensuite on devient complètement déraciné. On essaie de s'enraciner quelque part, mais il y a toujours quelque chose de votre pays d'origine, de votre culture d'origine, et d'où la nostalgie, la mélancolie, etc. Mais la force, c'est qu'il faut dépasser tout ça, il faut aller au-delà, et faire de cet exil une matière à écrire, une matière à réfléchir, une matière à vivre.
De faire de l'exil, transformer l'exil en racine, en fait.
Absolument. Faire, voilà, dire que voilà, maintenant, je ne suis qu'un exilé, un citoyen du monde. Le moment où on accepte ça y est, on peut aller plus loin. Sinon, on reste dans la dépression, dans la nostalgie, dans la mélancolie.
Voilà l'un des thèmes donc fondamentaux des porteurs d'eau, publié chez POL, les porteurs d'eau d'Atik Raimi. Et moi, je bois vos paroles, Atik.
Ne rien remettre à demain, être sur le bon chemin, jamais ne douter de rien. Toujours avoir un avis, des nouilles ou des spaghettis, des crevettes ou des sushis. être sans équivoque, savoir la vie des invoques, coller avec son époque, créer son réseau social, nouveaux amis c'est de la balle, les photos du Sénégal.
Carmen Maria Vega, on s'en fout.
Ça fait plaisir.
Message, sans doute, merci envoyé madame. Par notre programmateur musical. Oups, il est là, c'est Djoubaka. Ah,
vous connaissez pour moi?
Nous sommes en présence d'Atik Raimi, qui publie Les Porteurs d'eau, son nouveau roman, et qui va en parler tout à l'heure.
Est-ce que ce serait pas Clara Dupont-Moneau?
J'ai bien l'impression. Ouais,
ouais, ouais. On n'est pas arrivé encore.
Atik Raimi, vous venez de passer cette semaine au Rwanda pour le tournage de l'adaptation du livre de Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil. Mm-hmm. Et vous y étiez avec Pascal Grégory.
Oui.
Que vous retrouvez à la Maison de la Poésie le 22 janvier. Il va lire vos textes.
Absolument.
Atik Raimi avec nous et bien sûr, le moment de l'information.
Je n'ai jamais vu un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du Côte du Rhône.
Le journal de presque 17h17.
L'alcool, non.
Et on commence par les titres.
Alexandre Benalla est en garde à vue car il aurait falsifié un document pour obtenir un passeport de service.
Ah oui, mais si Benalla il sait faire des faux papiers, c'est peut-être pour ça que Macron garde contact avec lui. Parce qu'il est obligé de quitter le pays en urgence, c'est pas con.
François de Rugy a tenu à s'exprimer sur le grand débat car il craint que le dialogue soit polarisé par les grandes gueules.
Oui, et nous on craint surtout que le sujet de l'écologie soit porté par des petites bites.
Des brèves.
Et là, aucune ne sera falsifiée évidemment, je vous l'assure. Et commençons par l'acte 128 de l'affaire Benalla.
Oui. Lors de son audition devant la commission du Sénat, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a dit avoir découvert dans la presse le voyage de Benalla au Tchad.
Le Drian qui est quand même le ministre des Affaires étrangères, mais surtout il veut qu'on sache qu'il est étranger aux affaires.
Passons à gauche, car lors de ses vœux à la presse aujourd'hui, Martine Aubry a précisé qu'elle ne détestait pas Macron, mais que sa politique n'était pas bonne.
Et Martine Aubry, elle est comme ceux qui défendent Roman Polanski. Elle arrive à dissocier l'homme de l'artiste, et c'est beau.
Selon Benoît Hamon, oui. Personne ne connaît Génération, le parti de Benoît Hamon.
Et toujours ce tempérament de winner de Benoît Hamon. Ne lâche rien, mon bonhomme. Oui,
passons au coup de gueule de Françoise Laborde.
Oui, qui était hier sur France 3 pour un débat sur les enfants maltraités, une cause qui lui tient à cœur. Et elle râlait de l'absence de la ministre de la Santé, Agnès Buzyns. Et quand Françoise est fâchée, elle utilise un vocabulaire violent.
Bon sang de bonsoir, il y a 330 000 enfants qui sont pris en charge par l'ASE. C'est pas une urgence, ça hein? Et Madame Buzyn, elle a pas le temps de venir à une émission? C'est scandaleux.
Bon sang de bonsoir, qu'on n'avait plus entendu depuis 97.
Sentez toujours, selon une étude, le paquet neutre, bah oui, pardon, oui. Avec toutes ces affaires judiciaires, le paquet neutre dégrade bien l'image du produit chez les fumeurs.
Eh oui, il faudrait penser donc à mettre des photos de Michel Houellebecq sur les bouteilles d'alcool.
Des chercheurs disent avoir mis au point un régime alimentaire idéal qui consiste en gros à consommer moins de viande et plus de noix.
Ah là là, mauvaise nouvelle, si on en croit cette étude, Guillaume Meurice devrait vivre jusqu'à 120 ans.
Autre drame dans une vidéo, Caris a expliqué qu'il se posait des questions sur l'état mental de Booba.
Ah, ça veut dire que Caris, il n'avait jamais écouté un seul disque de Booba, sinon il aurait eu la réponse.
Allez, les brèves.
Les brèves, une Anglaise passe 17 jours avec une plaquette de médicaments coincée dans la gorge.
Ah zut.
Bah ouais, quand on lui dit de prendre des médicaments, elle s'enfile toute la plaquette. Heureusement que son médecin lui a pas prescrit des suppositoires.
La dernière.
Faut vous faire l'image parce que c'est plus rigolo.
Visuel. Oui. La dernière.
Attention, il y a un jeu de mots excellent pour terminer. Allez, allez, c'est pour les enfants. Bah, c'est pour les enfants. En Seine-et-Marne, un dromadaire sur les voies a perturbé la ligne C. Et j'imagine que ça a énervé les usagers parce que, à l'instar du dromadaire, bah, il y en a qui bossent.
Non, c'est non.
Si, parce que celle-là, elle est familiale.
On me dit dans l'oreillette que c'est non.
On peut la raconter aux enfants. Voilà.
Le prix Goncourt, Tikraini, est en notre compagnie et il publie son nouveau roman intitulé Les Porteurs d'eau chez PEL. On va y revenir tout à l'heure avec Clara Dupont-Moneau, heureusement. Il faudra bien sûr passer par quelques embûches en attendant Guillaume Meurice, etc. Mais en attendant, profitons du répit qui nous est donné avec ce premier sujet d'actualité. Quel est l'état des lieux du sexisme en France? Eh bien, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est chargé d'en faire un bilan chaque année. Eh bien, le bilan de l'année est tombé ce matin et on apprend que 10 millions de Françaises affirment avoir été victimes d'une injustice ou d'une humiliation. Et pourtant, les hommes font des efforts.
J'adore voir tes longs cheveux flotter dans la brise. Je suis un sacré coco. Toutes les filles me courent après dans la région.
Oh oui, ça j'en suis sûre.
J'ai piqué une fille à Jimmy, le maître d'hôtel, il y a quelque temps.
Oui.
Il était vert, alors il lui a demandé « Mais qu'est-ce que ce type a de plus que moi ?» Et elle lui a répondu « Deux hôtels.
Oh, » tu pourrais t'excuser, au moins.
Tu voulais voir le loup, non? Bah alors c'était ta chance. Allez, va, retourne chez tes parents. Parfois, on assiste à des scènes terribles. Malheureusement, le monde est une jungle. L'homme est un loup pour l'homme et surtout pour la femme.
Dirty Dancing, le film d'Émile Ardolino qui était sorti en 1987. C'est un article, une longue interview parue dans l'Humanité, mais c'est dans tous les journaux, ce bilan qui est fait par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a donc 4 Françaises sur 10 qui disent qu'elles ont déjà été victimes d'injures, d'humiliations, etc. Même les chroniqueurs humoristiques sont pointés du doigt. Heureusement, à France Inter, on est assez épargnés, parce que paraît-il, il y a des filles qui font de l'humour. Alors, beaucoup sur la chaîne. Alors, plus sérieusement, parlons voilà, du sexisme aussi dans votre regard, Atik Raïmi. Le racisme a une définition. Le racisme, c'est une idéologie fondée sur une hiérarchie entre les races. Le sexisme a pour définition plutôt un ensemble de discriminations, ce qui paraît beaucoup plus flou à déterminer. Le sexisme, ce serait quoi pour vous? Est-ce qu'il y a un curseur à mettre entre, je sais pas, entre des cultures, entre des pays, entre...
Bien sûr, mais quand j'entends des choses ici en France ou en Europe, dans ces pays-là, je me dis mais bon. En fin de compte, on n'est pas très loin des talibans, quand même. Et puis, même de temps en temps, je les regrette, parce qu'avec les talibans, au moins, tout est clair et net.
C'est vrai qu'ils sont moins hypocrites, ouais.
Je pense qu'à
voilà, bien que voilà.
Atik Raïmi, il est Charlie, hein, je vous préviens.
Voilà. Et c'est vrai que là, par contre, ici, de temps en temps, on va, voilà, un écrivain, ou un artiste, ou un homme politique, et tout ça, dire des choses. Je dis, mais voilà. On peut pas s'en sortir comme ça. En fin de compte, c'est que oui, ce problème est tellement ancien, et notamment avec le monotisme, c'est tellement enraciné en nous qu'on a du mal à s'en débarrasser comme ça. Donc, malheureusement, sur ce point, je suis... Voilà.
Je voulais revenir à Clara. Je sais que vous voulez poser une question. Est-ce qu'on peut juste, avant, parler peut-être de la femme? dans votre roman, dans Les Porteurs d'eau, peut-être. La femme, c'est une question centrale dans le roman. Il y a la femme libérée, artiste à Amsterdam, Nouria, qui devient la maîtresse de cet Afghan, Tom, qui vit à Paris, puis qui part la rejoindre à Amsterdam. Et puis, il y a la veuve à Kaboul, en 2001. Que racontent ces deux personnages de la femme, chez vous ?
Ah ben, mais en plus, ce sont deux femmes qu'on ne voit jamais.
C'est vrai, elles sont à l'arrière-plan. Voilà.
Ouais. Même, c'était leur absence envahit les hommes.
Sauf Nouria, qui est la maîtresse à Amsterdam et qui parle, qui s'exprime.
Qui s'exprime, mais même Rina, la femme, parce que Tom, tout au long de son voyage jusqu'à Amsterdam, il ne cesse de penser à elle et puis de se souvenir de tout ce qu'elle a vécu avec elle. Donc, non, elle est toujours présente, d'une certaine manière.
Mais volontairement, elles sont comme un peu des ombres derrière.
Oui.
Clara ?
Juste, la secrétaire générale du Haut Conseil à l'égalité dit que, des actes comme tenir la porte, porter la valise d'une femme, ça peut être perçu comme placer les femmes dans une situation de fragilité, affirmant leur besoin d'être protégées. Alors, est-ce que pour vous, Atik Raimi, la galanterie, la courtoisie relève du sexisme ou pas ?
Bon, ça c'est plutôt un respect, bien sûr, mais...
Ah oui,
voilà, c'est comme...
Sinon on appelle Elisabeth Lévy, ça va être réglé.
On ne souffle pas les réponses à l'invité.
Vous êtes galant, Atik Raimi ?
Parce qu'il y a un piège, il y a un piège, il y a un piège.
Oui, bien sûr. Bah, j'essaye. Mais je crois que je ne réussis pas.
Non, mais après, ça se remplace par de la politesse. Parce que la politesse de tenir la porte à quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme.
Oui, une femme peut très bien tenir la porte à un homme. Oui.
Oh, j'ai déjà tenu la porte à des filles, j'avais pas envie de coucher avec.
Hein. Ah, en plus, voilà. Ah,
alors ça, c'est important de le dire.
Voilà, c'est vrai que le curseur du sexisme, la chose est sans doute un peu plus difficile à définir et il faudra peut-être avoir une définition ferme un jour pour avoir un petit peu les points
sur les. C'est ça qui nous manque, c'est une définition. Je suis très demandeur.
C'est vrai que le mot sexisme, ça veut dire tout. Oui, rien.
Ouais,
donc, d'un côté, il faut accepter la différence, mais en même temps, il ne faut pas que cette différence devienne une contradiction.
Mm-hmm.
Donc,
une camisole.
Voilà, c'est ça le problème.
Djoubaka, quand on parle musique, on s'échappe.
Eh ben, on y
va. Emmenez-nous.
Eh ben, justement, il y a des jours où une voix peut avoir le pouvoir de prendre une forme étrange. Elle peut vous donner le sentiment qu'elle vous accompagnera longtemps, comme une amie sûre, que vous la trimballerez au fond de votre tête comme un trésor caché. Un de ceux que l'on partage et en espérant qu'il fera le même effet à nos potes et nos potesses un soir de mouise. Et puis la voix de Sarah McCalla, pour moi, a cette sorte de pouvoir.
I bit the skin from off my lips, hoping that damn words would come but nothing did. I'm pulling lashes from my eyes. We shame you'd see me, but you stay blind. I pull the drums from out my ears.
Et j'ai découvert en fait Sarah McCoy il y a une paire d'années.
Ça nous calme
tout de suite, c'était beau quoi. Peut-être plus lors d'un concert à Paris. En fait, j'étais arrivé un peu à la bourre et je suis resté au fond de la salle, mais pas bien longtemps parce que à la fin de la première chanson, je me suis collé au premier rang pour pas perdre une miette de ce qui se passait à ce moment-là. Et pendant qu'elle chantait, je pensais à Janis Joplin, à des chanteuses de blues des années 20, et elle interprétait ses chansons avec une telle conviction, ça sentait le vrai, pas de fioritures, pas de paire d'emballage cadeau quoi. Elle déversait une mélancolie vraiment tapageuse, elle susurrait, elle rugissait. On savait pas du tout ce qu'allait se passer en fait dans la seconde d'après et quel chemin elle allait prendre. Après le concert, en fait, j'ai croisé dans la salle ou au bar. Elle était pieds nus avec du whisky à la main et depuis j'attendais. Je me disais mais Sarah McCoy, quand est-ce qu'elle revient quoi ? Et là voilà, donc elle revient avec un disque. Et Sarah McCoy, elle vient d'une famille de 6 gamins. Son père c'est un ancien flic de Brooklyn. Elle grandit avec sa belle-mère qui est une ancienne nonne reconvertie en institutrice. Et puis enfant, il y a un ami de la famille, un forain, qui offre un piano. Et elle commence à jouer et intègre très très vite une école. Et elle raconte que ses vieux étaient pas du genre mélomane. Elle avait pas le droit de pousser la chansonnette en fait. Si elle voulait pousser de la voix, il fallait qu'elle fasse le tour de la maison pour ne déranger personne. Donc pas facile tout ça quoi. Et à 20 ans, son père meurt. Elle prend la route, elle traverse 44 des 50 États américains, s'ouvrant en stop. Elle apprend la guitare avec un clodo à San Diego. Elle chante dans la rue, elle bosse dans les bars. Elle s'installe au piano des bars quand on la laisse le faire. Et puis elle débarque à la Nouvelle-Orléans et pose ses sacs. Et cette ville entretient vraiment avec les musiciens une relation incroyable. Elle semble les nourrir, elle les protège, elle leur permet vraiment d'être meilleure. Et elle dit que là-bas, la musique est partout, qu'elle coule comme du beurre chaud sur les trottoirs. Je trouve ça joli, moi je la crois. Et elle finit par atterrir au Spotted Club.
Ça glisse, hein.
Ça glisse complètement. C'est un des clubs du quartier français. Et bien sûr, on la remarque. Elle a pas encore 25 ans, elle ressemble à personne. Et elle commence à tourner, le bouche à oreille s'installe. Et c'est ainsi que Chilly Gonzalez, votre pianiste préféré oui. dorénavant, fait sa connaissance à Paris et décide de produire son album Blood Siren. Il y a presque un an, elle rentre donc en bonne compagnie au studio Ferber à Paris. Et les 13 titres de ce disque, qui sera disponible la semaine prochaine, parlent d'elle, de ses dérives, de la Nouvelle-Orléans et de plein de petits monstres, ceux que l'on garde cachés au fond de nous, aussi mystérieux que ce sang des sirènes qui donne son titre à ce disque, apparaît sur le label Blue Note. Elle est actuellement en tournée un peu partout en France. Elle s'appelle Sarah McCoy et on écoute Boogeyman.
If I could catch you like a fish, if I could weave a web of time, I would catch you in a moment now, and in that moment for forever you'd be mine. Well, I would hunt you like a wolf, I would stalk you through the night, I'd be hiding in a shadow now where you can't see me until that moment is just right. I would be your boogeyman, hiding underneath your bed. Well, now I would watch you sleeping, yeah, lovely dreaming. I would hold your hand, I would be your boogeyman. Yes, I would be your boogeyman. Trap you, track you, bait you, I would find you and sedate you, I'd tag you, I'd cage you, then I'd rename you. But you in captivity is too heartbreaking for me. I'd like to trap you and track you and keep you, but I'll catch you and release you because I can, because I can, because I can.
Sarah McCoy, merci Djoubaka. Moi, je me procure l'album en sortant de ce studio.
Il faut attendre un petit peu, une semaine. Ouais. Hein.
D'accord.
Voilà.
Bon, j'attendrai, mais ce sera long. Voilà. Merci. Atik Raimi est en notre compagnie. Il publie Les Porteurs d'eau, roman paru chez POL. Et c'est Clara Dupont-Mono qui va nous en parler. Avant cela, Atik Raimi, il faut en passer par là.
Je suis désolé.
C'est Guillaume Meurice. Bon, voilà, ça fait un peu mal. Bon. Ça va durer 4 minutes 30.
Ouais, Clara et moi, on appelle ça le double peine. Que...
Ah non, ouais. Je bouche les oreilles.
Mettez-vous en PLS. Je vais vous parler du futur prix Nobel de chimie aujourd'hui. Il s'appelle Didier Guillaume, il est ministre de l'Agriculture. Et il a déclaré le vin n'est pas un alcool comme les autres. C'est une belle découverte scientifique. Saluée hein, comme il se doit. L'action PMU a pris 12 points à la Bourse de Paris. Jean Lassalle est désormais favori pour l'élection présidentielle 2022. Et Didier Guillaume va
intégrer hein, prochainement, on l'a appris, l'Institut Pierre et Marie Cuby. Faculté scientifique située dans les Côtes du Rhône. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'en pensent les consommateurs d'alcool. Donc j'ai fait la tournée des bars ce matin, parce qu'en France, on déconne pas avec le patrimoine. Le patrimoine, c'est le matin. Faut s'y mettre dès très tôt, quoi. Alors, on commence avec un premier consommateur.
Le vin, c'est un délire, c'est un super alcool. Maintenant, quand on en boit un petit peu trop comme moi, ça fait un petit peu des dégâts. Et on appelle ça des absences. Mais le vin, c'est délicieux, le premier, c'est le vin de la terre, c'est tout.
Le sang de la terre, c'est
dire. Ouais, moi j'ai le vin de la terre, on peut dire le sang de la terre.
Si on dit le vin, c'est le vin de la terre, ça fait deux fois vin.
J'avais pas pensé à ça.
Alors, on n'a pas entendu, hein, parce que vous avez parlé en même temps, mais il a dit le vin de la terre. Ça pourrait être dans un de vos livres, quoi. C'est une licence poétique, le vin et le vin de la terre.
Mais dites ce que vous vouliez dire à Tikraïvi, justement.
Je dis que la première personne qui a très très bien su comment promouvoir le vin, c'était Jésus, sous ses mensonges.
C'est le premier viticulteur. C'est bien. Alors on continue, parce que c'est vrai que bon, il y a de la métaphore, la littérature c'est important dans le vin. Est-ce que le vin est un alcool, donc comme les autres?
Non, je dirais pas. Il raconte, c'est un autre poème. Il y a d'autres paroles, il y a d'autres histoires. On raconte autrement les choses avec le vin. On parle pas de whisky, on parle pas de...
Mais dans le whisky, il n'y a pas une histoire, il n'y a pas des poèmes?
Il y a d'autres histoires, mais pour moi, ce n'est pas aussi poétique.
Le whisky est moins poétique que le vin?
Mais bien sûr.
C'est vrai, le whisky est plus Guillaume Musso, hein, on le sait, c'est moins raffiné. Moins Clara Dupont-Monod, si on veut vraiment filer la comparaison avec la littérature. Clara, c'est vrai, vous êtes comme un bon vin, voilà, vous prenez toute votre saveur avec l'âge.
C'est tellement prévisible.
Vous dire à quel point aujourd'hui vous êtes succulente. c'est surtout ça, c'est le vin en France. Le vin en France, c'est avant tout la culture, hein, n'est-ce pas madame?
Oui, comme aussi en Australie. On fait de très 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 bons vins.
Mais est-ce que l'abus de culture est dangereux pour la santé?
C'est comme la peinture, non? Si on fait trop de peinture, ça devient une peinture pompier. Comme au Louvre, il y a plein de tableaux pompiers. Hein.
Ça veut dire qu'il faudrait éviter de prendre la voiture si on a trop peint, par exemple?
Ou son vélo, ou son scooter d'ailleurs.
Oui, attention, si vous prenez une cuite à la culture, ça peut faire des dégâts. Et c'est vrai qu'une visite au musée, ça peut vous saouler. Ou une musique hein, aussi. D'ailleurs, si j'avais pas peur physiquement de Chewbacca, je pourrais vous citer des exemples. Mais poursuivons notre tournée des bars avec un autre argument.
Le vin, c'est convivial.
Ça veut dire quoi, le vin, c'est convivial?
Ça veut dire que quand vous avez été des gens à dîner ou à déjeuner, ils vous amènent une bouteille de vin, ça veut dire que c'est convivial avec un gâteau.
Est-ce que l'autre boisson n'est pas autant convivial?
La bière, vous voulez dire?
Ah oui, parce qu'il n'existe que deux boissons, donc le vin et la bière. Les autres étant complètement désuètes. Encore qu'il y a des thèses qui disent qu'il y a aussi le pastis. On doit beaucoup aux recherches du professeur Renaud, qui lui-même, je vous le rappelle, est composé d'un volume d'eau et de cinq volumes de Ricard. Mais la bière, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. La bière, ça, c'est des trucs des sports avec le rugby, le foot. Et ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. C'est comme si vous avez une personne qui a Parkinson, Alzheimer, un autiste et un trisomique, c'est complètement différent.
La bière est au vin, ce que le trisomique est au malade de Parkinson. Alors ce qui est bien avec l'alcool, c'est que ça développe énormément de capacités cognitives. Enfin, on a l'impression que ça en développe. On a tous écrit des textes un peu alcoolisés en se disant « putain, je suis un génie ». Et puis le lendemain, on s'est rendu compte que c'était pourri. Voilà. Enfin, sauf Alex qui en a fait un spectacle. Mais sinon, on a tous reconnu ça.
De loin, je l'ai vu arriver.
Mais si on veut être tout à fait complet sur la question de la convivialité, il faut quand même poser la question.
Mais comment on peut définir le degré de convivialité d'une boisson?
Qu'est-ce que je vais vous dire? Vous buvez, monsieur?
Ça m'arrive, bien sûr.
Vous n'avez pas une tête à sucer de la glace, vous?
J'ai pas une tête à sucer de la glace, bravo. Il est sincère. Il est sincère, même à mon avis. Le mec m'accuse carrément tranquille d'avoir une tête de technicien de France Inter. Bon, il est temps donc de conclure avant qu'il me coupe le micro avec un dernier spécialiste.
Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. C'est un raisonnement qui est complet.
C'est-à-dire alors un raisonnement complet?
On va dire deux verres à chaque repas, ça c'est bon. Au-dessus, c'est...
Ça fait quatre verres de vin par jour quand même.
Oui, ça me paraît pas excessif.
Alors il y a des médecins qui disent l'inverse hein, quand même.
C'est qu'ils défendent leur paroisse quoi.
Comme s'ils défendaient leur paroisse, ils aimeraient bien qu'il y ait plus de gens malades puisqu'ils gagnent
oui,
de l'argent avec ça.
Oui, non. Bon, je veux vraiment vous laisser parce que je suis pas assez compétent.
Et voilà, et c'est bien pour ça qu'il pourrait être ministre de l'Agriculture. Voilà, il a toute la non-compétence pour l'être, comme Didier Guillaume, qui reste donc ministre malgré son addiction au lobby du vin. Alors qu'on le répète, boire ou conduire un pays, il faut le choisir.
Guillaume Meurice, merci. Voilà un sujet qui n'a pas échappé à Tikraïmi, grand amateur de vin.
Oh, j'adore, parce que j'ai commencé à boire justement avec le vin à Kaboul.
Ah oui,
parce que les Italiens fabriquaient du vin là-bas, qui s'appelait Castalino. Et j'ai commencé, justement. Je raconte dans mon deuxième roman, Les mille maisons du rêve de la terreur, justement, cette soirée où j'avais tellement bu que j'avais raté, justement, l'or de rentrer chez moi. Il y avait le couvre-feu et puis j'étais arrêté, tabassé par les flics, oui.
Ah oui. Donc, on rappelle que c'est avec modération, donc, hein, parce qu'il y a des dommages collatéraux. Atik Raïmi avec nous avant de revenir à votre roman avec Clara Dupont-Mono. Parlons des gilets jaunes qui oscillent entre les ronds-points et les ateliers d'écriture. Ça se passe à Montpellier où quelques citoyens actifs dans le mouvement apprennent à structurer les idées pour mieux faire passer les doléances. Au départ, c'était dans l'idée de poser les bases d'un RIC, hein, hérisser le référendum d'initiative citoyenne. Mais pourquoi pas pour le grand débat, ces ateliers? Si toutefois certains veulent y participer au grand débat, ça c'est moins sûr, mais voyons comment ça se passe à la sortie de cet atelier après un exercice.
Et l'étude de l'interprétation.
L'interprétation?
Vous ne savez pas.
Qui?
Non.
Ah, comme l'étude de l'interprétation. Oui, j'ai dit il y a quelques mots.
Ah,
et la diffusion?
Comment?
La diffusion.
Quelle diffusion?
Vous n'avez pas parlé de la diffusion?
La diffusion.
La diffusion.
Ah! La diffusion. La diffusion.
La diffusion.
La diffusion. Pourquoi vous dites la diffusion?
Qu'est-ce que c'est?
Non, la diffusion. C'est un peu différent. D'autres bien.
Tout en nuance, Le gendarme se marie de Jean Giraud. C'est un reportage de France 3 Régions, donc à Montpellier, qui nous parle de ces ateliers où ces citoyens essaient de formuler leurs doléances. Les ateliers d'écriture, vous en conduisez, vous en avez créé, Atik Raïmi. Alors, participer à un atelier comme ça, quand on a des revendications, qu'on est en colère, revenir en classe pour mieux formuler ses doléances, est-ce que c'est une manière de canaliser sa colère, de la transformer?
Absolument. Déjà, Dostoïevski disait une chose extraordinaire. Il dit que pourquoi les enfants se battent? Parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. En effet, j'ai vu aussi en Afghanistan, et puis dans mon roman, Les Porteurs d'eau, Youssef, qui est illettré, ce qui lui arrive, il ne comprend pas parce qu'il... Il n'arrive pas à trouver les mots pour les déposer. Donc, ça le rend violent. Et je crois que, en effet, le moment où on arrive à s'exprimer correctement, et puis, ça nous permet aussi de réfléchir sur les choses, on renoncerait à cette violence. Gilets jaunes, en effet, si c'est tombe à chaque fois dans une telle violence, parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Donc,
Et c'est un mouvement qui n'a pas véritablement de slogan. Qui n'a pas le mot.
Absolument. Si, parce qu'il y a Macron enculé dedans.
Non. c'est pas le slogan qui a été englobant comme a pu être Dégage, par exemple, avec les printemps arabes. Kamel Daoud l'a écrit dessus, c'est très intéressant ce qu'il dit, c'est que, pour le coup, non, il n'y a pas de slogan. Un seul qui unifie.
Mais il y a des gilets jaunes qui s'expriment parfaitement bien.
Bien sûr.
Ils sont justement accueillis sur les plateaux de télévision pour pouvoir essayer de formuler les choses. Et la femme qui est à l'initiative de la pétition au tout début, agricultrice bio, si je me rappelle bien, elle formule parfaitement bien les choses.
Bien sûr. Mais dans la masse, il n'y a pas de slogan qui ont, de la même façon qu'il n'y a pas de leader, mais c'est lié, je pense, avec cette horizontalité. Mais en effet, pas de slogan, à un moment, ça pose un souci quand même.
Et dans vos ateliers d'écriture, est-ce que vous sentez ça aussi que arriver à formuler, à écrire, apaise la colère finalement?
Surtout transférer ces colères, ces complexes sur un support qui est la langue et le langage, l'écriture. Ça aide énormément. Bien sûr, la psychanalyse l'a bien déjà montré, et même dans les religions. C'est le moment où on arrive à nommer le sentiment. Qu'on a au fond de nous, ça justement, c'est les matérialiser, c'est les maîtriser, les contrôler.
Mais ceci dit, dans les casseurs, il y a les black blocs, c'est des gens qui sont souvent très cultivés et justement qui lisent. C'est une stratégie aussi, la violence.
Oui, mais c'est pas que... la lecture, ça suffit pas. Hein. Il faut trouver ensuite, au fond de lui-même, ces sentiments-là et les mots qui correspondent exactement à ce qu'on ressent.
C'est-à-dire le but de ces ateliers d'écriture aussi, surtout d'utiliser les mêmes armes rhétoriques peut-être aussi que les politiciens eux-mêmes, parce que ces citoyens formulent plein de choses parfaitement bien, mais il faut avoir parfois aussi les codes pour pouvoir les exprimer et rentrer dans le débat, et on les a pas tous, même autour de cette table.
Oui, absolument. Ouais. Oui, c'est, pour moi, la démocratie arrive au moment où on arrive de transformer le combat en débat.
Donc voilà. Ça c'est joli. Ça, je pense que après ça.
Débat, c'est bon mot là pour l'instant.
À Max Crimi, on ne peut laisser la parole qu'à Clara Dupont-Mono pour parler des porteurs d'eau.
Et oui, c'est le nom du livre de notre invité, donc Cathy Crimi, Les porteurs d'eau. Alors, Charline et moi, on aime beaucoup ce personnage qui est assez beau, hein, de porteur d'eau. On le trouve souvent dans Les Mille et Une Nuits, par exemple, ou alors dans les contes populaires marocains. Le vôtre, bon, il n'est pas du tout marocain, il habite en Afghanistan, la pluie n'est pas tombée depuis des mois, et lui seul sait où se trouve une source, il le sait de son père, et du coup il distribue l'eau, et il a un rôle absolument fondamental pour la survie des habitants. Et puis à côté de cette histoire du porteur d'eau, Atik Raimi, vous déroulez une autre histoire, celle d'un exilé afghan, installé en France depuis 25 ans, il est marié, il a une enfant, et en fait il décide de tout quitter. Mais vous voyez, la construction du récit que je viens de vous énoncer donne le ton. C'est-à-dire que vous avez fait un livre avec deux histoires, autrement dit un livre de la duplicité. Alors, en français, le mot, il n'a pas très bonne réputation. Duplicité, ça suppose une hypocrisie, ça suppose un double visage. Par exemple, dégommer les riches alors qu'on l'est, je vous vois hocher la tête Guillaume Meurice, ou promettre une action politique et ne rien faire, et on embrasse François Hollande. Non, là, il faut prendre duplicité au sens littéral du terme, c'est-à-dire juste le fait d'être double. Et dans votre livre, les deux histoires du porteur d'eau et de l'exilé se déroulent en ligne parallèle et par définition, elles ne se croisent jamais. Or, vous augmentez la difficulté, Atik Raimi, parce qu'il se trouve que chaque personnage lui-même se révèle double. Donc vous faites de la littérature à quadruple fond, et à ce stade on aurait aimé une préface de Garcimore, mais prenons... C'est une plaisanterie de mauvais goût. Mais prenons l'exilé. Il s'appelle Tom. Bon, votre Tom, il mène une double vie. D'ailleurs, il va rejoindre sa maîtresse, qui elle-même a une double identité. Et le voyage pour la retrouver le conduit vers encore un autre double, cette fois à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire Tom lorsqu'il s'appelait encore Tamim, et c'était avant son exil en Afghanistan. Donc, si je résume, c'est l'histoire d'un porteur de double qui mène une double vie et qui va rejoindre une femme qui est double. Donc c'est un roman que vous avez fait aux racines multicarrées. Et du côté du porteur d'eau qui s'appelle Youssef, c'est pareil, puisque publiquement c'est un homme vendeur d'eau, une figure qui est connue et plutôt respectée dans le village, mais en privé, c'est un homme qui est torturé d'amour pour une femme qui a une vie cachée. Donc vous voyez, tout dans ce livre met en scène des doubles, tout le monde est habité, c'est un peu « je est un autre » en open bar en quelque sorte. Mmh. Et au fond, rien d'étonnant. Parce que ce que vous orchestrez là, Atik Raimi, ce que vous mettez en récit, c'est au fond l'ADN du romancier. Qui vit de la duplicité ? Le romancier. L'acteur interprète un autre, mais l'écrivain, lui, le fabrique. Et pour fabriquer un autre, il faut lui donner des remords, des obsessions, des joies, un passé. Il faut à un moment s'inventer une autre peau. Et donc vous mettez en narration l'essence même de l'écrivain. Et le fait que ça s'appelle Les porteurs d'eau, ce n'est pas anodin, puisqu'il y a une parenté entre l'eau et la littérature. Est-ce qu'on ne dit pas le fil du récit, comme on dit le fil de l'eau ? Ou est-ce qu'on ne dit pas puiser l'inspiration ?
Non, on dit puiser.
Voilà, c'est ça en Belgique. Mais sans parler, écoutez bien les expressions, l'écriture fluide, ou alors la source d'un roman. Et d'ailleurs, à un moment, Tom est allongé près d'une femme semi-nue, il est très malheureux, et elle lui dit « Votre source est tarie ». Et parce que, en effet, Tom ne parvient plus à se raconter, il n'a plus de récit. Et heureusement, la femme semi-nue, car il faut toujours écouter les femmes semi-nues, ajoute « Vous savez que notre corps est fait d'eau à plus de 80%, alors nous sommes tous des porteurs d'eau. Ce qui signifie aussi « Nous sommes tous des porteurs d'histoire ». Et c'est vrai que pris dans son entité, chacun est porteur d'un récit. Je vous donne les références. Les porteurs d'eau de Atik Raimi est paru chez POL.
Merci Clara Dupont-Mono. Merci. Une réaction Atik Raimi? Clara a vu juste.
Tellement bien parlé de livres que donc du coup, moi-même en tant qu'auteur, je n'arrive pas à résumer de cette manière.
Je vous donnerai l'adresse pour l'atelier d'écriture.
En effet, l'eau, c'est la vie, c'est l'écriture, parce que la vie a commencé sur cette terre grâce à l'eau. Donc, d'une certaine manière. Et évidemment, mon personnage, l'un des personnages, Youssef, lui, il est un porteur d'eau. Et ensuite, on apprend aussi que Tom, lui, il est emporté par les eaux. d'une certaine manière.
Trois petits points. On vous laisse découvrir les porteurs d'eau d'Atik Raïmi. Merci beaucoup Clara Dupont-Monod. On va passer à cet autre sujet en se demandant quel est l'impact écologique des expositions d'art contemporain. Car entre le transport des œuvres, la fabrication de murs temporaires en plastique ou recouverts de peinture puis jetés juste après l'expo, l'art échappe jusqu'à présent à la transition écologique et même au débat. Et pourtant, tant d'artistes puisent leur inspiration dans la nature.
Nous venons encore une fois de trouver une plante verte abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que désormais toute plante, quelle qu'elle soit, sera détruite dans un délai n'excédant pas 5 minutes après sa découverte si son propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter lui-même dehors immédiatement. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints ? Non ! Simplement des protubérances chlorophylliennes, tout juste bonnes à faire du feu !
Un extrait de Muséo, Musée Bas, le film de Jean-Michel Ribes. C'est un article publié dans le journal suisse Le Temps qui nous explique qu'il faudrait peut-être s'intéresser au bilan carbone, voir s'il n'y a pas des exagérations parfois dans l'art contemporain. Nous avons pensé à ce sujet parce que dans votre livre, il démarre au moment où les Bouddhas de Bamiyan sont détruits en Afghanistan par les talibans. Et Nouria, qui est la jeune fille qui est à Amsterdam et que va rejoindre l'un des héros, parle de la pérennité de l'art, du fait qu'une œuvre garantit la trace de l'humanité dans l'univers. Alors, la trace de l'humanité, oui, mais l'empreinte carbone, non, alors.
Bah écoutez, c'est cool. Il faut savoir payer pas mal de choses dans sa vie, et puis dans l'humanité aussi. D'abord, chercher sa vérité, chercher sa liberté, chercher ses désirs, sont des choses pour lesquelles il faut savoir payer. En effet, l'art qui donne à la fois le désir, la jouissance, etc., en effet, ça demande un prix. Mm-hmm. En effet. Rabin Ranath Tagore, le grand poète indien, il disait, à chaque fois quand j'écris sur un papier, je me sens relié avec un jeune garçon en Amérique latine qui coupe un arbre.
Dites donc. Et alors, je peux vous dire que quand on écrit des sketchs de Les Uguizorek sur du papier blanc, est-ce qu'il y a une empreinte écologique? La transition est un peu rude parce que c'est très très joli ce que vous venez de dire.
Bien ennuyé.
On se sent relié à Jean Roucas.
Vous savez qu'à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité pour jouer avec nous.
Non, il ne savait pas.
Et bah, vous le découvrez. Ça part d'un article parce qu'on a appris que certains touristes voulaient visiter l'Afghanistan en faisant du couch surfing.
Couch surfing.
Je le dis pas bien. C'est ce qui consiste à dormir chez l'habitant. Mais il y a un couple de Néerlandais qui a eu un petit souci parce qu'il est tombé chez des talibans et il y est resté 5 années. Alors, comment ça s'est passé? Vous les accueillez, le couple de touristes, Guillaume et Charline, qui seront en couch surfing en Afghanistan.
Bonjour monsieur l'habitant.
Soyez les bienvenus messieurs dames.
Ah, oh, ça a l'air tellement authentique chez vous.
Ah, c'est typiquement afghan, madame.
Ah, bah tant mieux, parce que nous, les pièges à touristes...
Oh, c'est vraiment pas notre truc, hein.
Et en plus, ici, vous êtes en sécurité.
Oh, dites, c'est très joli, cet abat-jour, là-bas.
Oh non, c'est ma femme.
Ah oui, d'accord, oui, parce que je me disais, je voyais pas l'interrupteur.
Oui, cette ceinture qu'elle porte, c'est très original, hein.
Fabrication artisanale, madame.
Ah, j'en avais jamais vu des comme ça. Ah,
c'est vrai qu'une ceinture avec des pétards, c'est pas commun, hein.
Mais, et à côté, c'est sa sœur.
Ah non, c'est ma femme aussi.
Ah d'accord, d'accord. Oui. Ouais.
Et donc encore à côté, c'est...
C'est sa sœur.
Ah ben quand même, ah, oui. Ouais.
Mais c'est ma femme aussi.
Ah, alors, dites donc moi une déjà.
Arrête, non, il fait toujours des blagues. Ouais. Non, mais vous aimez l'humour.
Oui, un peu.
Ah oui, bah moi aussi, moi je suis abonné à Charlie Hebdo, voilà.
Ah moi non, je sais plus le pif gadget.
Oui, voilà. Dites, ça vous ennuie si on prend des clichés?
Vous voulez dire comme dans votre sketch?
Non, des photos de vous, des dames.
À vos risques et périls.
Ah oui, donc vous êtes chasseur.
Pourquoi tu dis ça?
Bah t'as pas vu, monsieur a un fusil.
Oh, une Kalachnikov, madame.
Ah, vous chassez quoi? Sanglier, chevreuil, tourterelle?
Non. Le mécréant.
Ah, je connais pas ce gibier, moi. Je ne...
Oh, c'est très tendre.
Il y en a beaucoup.
De plus en plus, malheureusement.
Bon, allez, moi je filme couché. Hein.
Allez, moi aussi, hein, parce que je vais lire le livre de Florence Aubenas sur sa détention en Irak. Donc, ouais.
Bonne idée. Et si j'étais vous, je commencerais déjà à écrire le vôtre.
Atik Raïmi, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre roman, Les Porteurs d'eau, paru chez POL. Comme Adil Rami n'était pas disponible, c'est à vous, Atik Raïmi, que je laisse le mot de la fin.
Un jour, quelqu'un m'a arrêté et dit « Monsieur Tariq Ramadan, oh, tout ce que vous dites, j'adore. » Et je le regarde, je dis « Merci, merci. » Il dit « Tout ce que je dis, je n'y crois pas du tout. »